RCF.
Ils sont nombreux les écrivains, les artistes, que la folie, ou ce qu'on appelle la folie, a frappé. Poètes, romanciers, peintres, sculpteurs, et j'en élimine bien sûr dans ma liste. Ainsi, Hölderlin a vu sa vie fracturée en deux parts égales. 36 ans dans la vie ordinaire, il participe au monde, et 36 ans, il vit reclus, établissant un mur de silence entre lui et le monde extérieur. Nerval, dans Aurélia, évoque sa descente aux enfers en ces termes. Le rêve est une seconde vie. Je n'ai pu percer sans frémir ces portes d'ivoire ou de corne qui nous séparent du monde invisible. Frémir. La folie fait donc bien peur parfois. Citons encore Camille Claudel qui va mener la sculpture vers la folie. Folie qui la conduit à l'internement et au silence, créateur absolu pendant une très longue partie de sa vie. Elle mourra dans le dénuement solitaire. Je rajouterai parmi d'autres aussi Antonin Artaud, dont la folie est consubstantielle presque à l'œuvre. Et puis, qui ne connaît Vincent Van Gogh, dont la recherche d'absolu mène au suicide? Van Gogh, le suicidé de la société, disait de lui, justement, Antonin Artaud. Et Van Gogh, justement, qui est à la fois l'auteur de ce tragique tableau « L'homme à l'oreille coupée », mais aussi celui qui réalise ce merveilleux amandier en fleurs qui constitue la couverture du récit que nous livre mon invité aujourd'hui, Gérard Vincent. Gérard Vincent qui publie, ou plutôt publie de nouveau, sous le titre « L'incandescence », un récit qui a lui-même une histoire dont il va nous parler. Bonjour Gérard Vincent.
Bonjour Monserrata.
Gérard Vincent, vous avez publié il y a quelques années, un beau, fort, douloureux roman, on dira roman peut-être.
Oui, il y a 2 ans.
Il y a 2 ans justement, vous étiez venu ici pour nous en parler, que vous aviez intitulé « Mort d'un chartreux ». C'était un roman qui m'avait frappé par justement... Eh bien, je reprends votre titre, par son incandescence. C'était une confrontation entre un chartreux et la mort que vous nous donniez à lire, donniez à entendre. Après ce roman qui a eu une certaine audience, un certain succès, vous publiez de nouveau, j'insiste, ce récit que vous intitulez « L'incandescence ». Alors, question personnelle, Gérard Vincent, que s'est-il passé entre la fin de l'écriture du roman « La mort d'un chartreux » et « L'incandescence » qui nous ramène bien en arrière dans, à la fois, votre écriture et votre vie?
Oui, « L'incandescence » c'est un récit qui a été écrit il y a 40 ans et qui a été publié en 1987 à l'âge d'homme. Et qui a quand même un lien avec Mort d'un chartreux. Pour ça que je pensais que c'était intéressant peut-être de le reproposer. Parce que à la fin de la Mort d'un chartreux, mon moine, Pierre d'Ambleteuse, raconte qu'à 24 ans, il a été confronté à une très grave expérience psychique, mais...
Mystique aussi.
Et mystique, psychique, mystique, mais vraiment sur le versant sombre de la folie, puisque... C'était quand même une forme de psychose. Et cet événement va décider de sa vie de moine, hein, puisque suite à cette expérience, il va entamer des études de théologie et puis finalement devenir moine 4 ans après à la Grande Chartreuse. Et donc, moi, le point commun, c'est que ce qui est arrivé dans, dans la vie de mon, dans le dans mon roman, dans la vie de ce moine à 24 ans, m'est arrivé personnellement au même âge à 24 ans. Alors c'est en 1978, au sortir d'études longues et pénibles, et alors que je m'engageais vers une autre voie, une autre voie de d'études en lettres, des choses qui m'intéressaient beaucoup plus, j'étais happé d'une manière absolument brutale et soudaine à Aix-en-Provence où je vivais avec mon épouse, ma jeune épouse, par cette catastrophe psychique que j'avais racontée, dont j'avais essayé de tenter le récit quelques semaines, quelques mois après la sortie de la clinique psychiatrique de Lille, où je suis resté plus de 3 mois. Et une des raisons de cette écriture, c'était que, ayant subi une quantité quand même assez importante, une trentaine d'électrochocs, j'ai été confronté à quelque chose que connaissent bien ceux qui subissent ces traitements, des pertes de mémoire considérables. Et j'avais l'impression que ce qui m'était arrivé était tellement important qu'il fallait, pour ne pas le perdre, pour ne pas l'oublier, pour ne pas que ça se délite dans les méandres de la mémoire, de l'écrire. Donc j'ai écrit ce récit à la fin 1978, et à ce moment-là, début 79, je commence à écrire des carnets que j'écris toujours aujourd'hui, hein. C'est toujours mon mode d'écriture privilégié, les carnets. Et donc là, l'incandescence, c'est dans un premier temps le récit de l'épreuve, la descente, enfin j'appelle ça l'épreuve du feu, et la deuxième partie serait plutôt la remontée avec des carnets que j'intitule « Chronique des jours qui brûlent ». Voilà.
Donc un lien,
somme toute étroit entre ces deux textes,
et vous revenez donc, vous venez de nous le dire, en ces années difficiles, douloureuses, oui. Je retiens dans ce que vous venez de nous dire le mot « épreuve ». Oui. Ce fut une épreuve.
Une épreuve terrible, oui.
Terrible. D'abord par la souffrance psychique elle-même, ensuite ce qui accompagne, suit la souffrance psychique, c'est-à-dire l'hospitalisation, la coupure d'avec le monde ordinaire, la famille, les amis, les très proches. C'est peut-être ce qui explique ce mot incandescence qui constitue le titre de votre récit, mais aussi une sorte de ligne continue dans tout le récit où, bien évidemment, vous fouillez cette métaphore du feu, de la brûlure, de l'ardeur qui véritablement a marqué ces mois et peut-être, vous nous le direz si je me trompe, ces années, car on ne sort indemne de cette épreuve du feu.
Oui, l'incandescence, c'est à la fois la brûlure et c'est aussi la lumière. La lumière. En fait... J'avais peut-être déjà dit ici, quand on s'était vu pour Chartreux, moi je suis, alors que tous les traitements étaient inefficaces et que les psychiatres étaient extrêmement pessimistes, à un moment de l'épreuve, au bout de plusieurs mois, alors que je ne donnais plus cher de ma vie, j'ai eu une voix intérieure qui m'a demandé de prononcer deux mots, et ces deux mots, c'est « je consens ». Et là, ça a été assez extraordinaire, parce que dans les heures qui ont suivi la prononciation de ces deux mots, tout s'est ouvert. C'est comme si un grand rideau de fer se levait, ou alors c'est comme si je venais de donner un grand coup de talon au fond de la mer pour remonter à l'air libre et à la lumière. Ça s'est passé en quelques heures, et j'ai su immédiatement que c'était fini. Quelques jours après, je me promène dans le parc où j'avais vu des visions de mort, des visions d'horreur, des visions des hallucinations, parfois terrifiantes. Là, je me retrouve face à un pommier en fleurs. Et ce pommier, je vois cet arbre comme jamais je n'avais vu un arbre de ma vie, c'est-à-dire dans une lumière de gloire. Et pour moi, c'était vraiment cet arbre en fleurs, une théophanie. Et en fait, c'est en repensant à cet arbre que j'ai eu l'idée d'appeler le livre l'incandescence. Et voilà.
C'était l'explosion de vie
c'était,
des fleurs.
C'était en fait, en voyant cet arbre dans une lumière de gloire, dans une splendeur extraordinaire, j'ai compris une chose très vite, c'est que mon corps avait changé. C'est-à-dire ma perception du monde avait changé. Mon corps était passé quelque part dans un lieu qui l'avait transformé, et c'est cette transformation qui permettait de le voir comme ça. Tout dans les dans les semaines qui ont suivi cette renaissance, cette petite résurrection, tout devenait signe, tout était signe. Ça s'est résorbé par la suite, j'ai pas gardé cette... Et puis après, il y a encore eu des mois un peu difficiles, hein, quelques mois de convalescence et de chemin cas. Mais en fait, oui, le corps avait changé, je suis devenu quelqu'un... Bon, d'abord, je suis devenu un chercheur vraiment... absolu, avec rentrant dans une frénésie de lecture, mais tout m'était différent. Les êtres, les lieux, les textes, tout venait à moi dans une lumière nouvelle, et ça a été, voilà. Et comme Mordin Chartreux, c'est vrai, a quand même reçu un accueil du public vraiment favorable, j'ai trouvé que c'était intéressant, puisque ce livre, bien qu'il ait été réimprimé plusieurs fois par l'âge d'homme entre 87 et il y a une dizaine d'années, il était épuisé. On le trouve encore un petit peu en occasion. Puis j'ai un jeune éditeur qui avait beaucoup aimé Mordin Chartreux, Stéphane Bernard, édition des Instants, qui démarre, hein, qui a 3 ans.
Et je dois dire, je me permets de vous interrompre,
oui,
Gérard Vincent. C'est un très beau travail
éditorial.
Oui, oui. D'abord, la couverture dont vous allez peut-être nous dire quelque chose. Ne sais pas si vous y êtes pour quelque chose.
Moi, j'aurais aimé...
Elle est merveilleuse.
J'aurais aimé avoir en couverture l'Amandier en fleurs de Pierre Bonnard, sa dernière toile, dont je parle dans l'incandescence, parce que je la découvre dans un livre, et 2 jours après, complètement par hasard, à Paris, je vais voir l'expo Paris-Moscou, donc ça remonte loin, et je tombe sur cette toile. Mais cette toile, elle était plus... Enfin, on pouvait pas aller la photographier. Après, c'est très compliqué pour un jeune éditeur de payer des droits considérables. Du coup, il a pris un détail de l'Amandier en fleurs de Van Gogh.
Oui.
Hein, c'est une branche sur un très beau fond bleu. Donc, le livre est très beau, avec des rabats. Et puis, j'ai la chance aussi de pouvoir, avec l'accord de Lydie Dattas, publier la lettre que Bobin m'écrit en 1999, donc 12 ans après la parution de l'incandescence. Je reçois une lettre magnifique de Bobin. On va se voir très vite et on va nouer une amitié qui va durer jusqu'à sa mort malheureuse il y a bientôt 2 ans.
Alors, vous parlez de Christian Bobin, vous parlez de son épouse Lydie Dattas.
Oui,
aussi.
Oui.
La Dattas Bobin maintenant.
Oui.
Cette très belle préface, puisque vous la présentez comme telle, qui était à l'origine une lettre, constitue vraiment une entrée en matière de votre récit. Et j'y relève cette phrase. L'amandier est l'arbre de folie et de sagesse. Votre âme est cet amandier, tantôt en fleurs, tantôt en feu, écrit Christian Bobin. Oui. Alors, outre cette confiance absolue de Christian Bobin qui vous écrit cette lettre, il y a une justesse dans son propos, à propos justement de l'amandier d'abord, en fleurs, en feu, qu'il rapporte à ce qui est peut-être votre quête, Gérard Vincent.
Oui, c'est vrai. Christian m'a beaucoup aidé à essayer de comprendre, parce que moi, ce qui m'est arrivé il y a longtemps, là, ça reste complètement mystérieux.
Un mystère encore pour
vous. C'est un mystère, parce
vous.
Que rien ne me... À part cette période d'exaltation un petit peu mystique que j'ai eue à ce moment-là, avec notamment la lecture d'Hölderlin, la lecture de grands textes bibliques, mais rien dans mon passé ne me prédisposait du tout. Je suis quelqu'un qui n'était absolument pas dépressif, qui était très heureux dans cette belle ville d'Aix, après avoir vécu 7 ans à Lille, faisant des études qui me passionnaient. Non, ça reste quelque chose de très mystérieux. Et j'ai eu des conversations avec Christian, mais pas qu'avec Christian, avec Georges Aldas, avec Claude Vigée, Claude Vigée, d'ailleurs, dans une lettre assez bouleversante, très longue lettre qu'il m'a écrite au moment où je lui soumets ce texte, et il me répond que je suis pour lui un compagnon du voyage de Jonas. Il voulait qu'on se rencontre à Jérusalem, où il enseignait la littérature, mais on s'est vu à Paris, quand il revenait en France. Donc, Bobin, c'est... Ça n'a pas été facile parce que Lydie Dattas est très très protectrice de tout ce qui concerne Christian. Mais enfin bon, elle m'a quand même donné l'autorisation et je dédie le livre à Lydie et Christian Bobin.
Je voudrais revenir sur un verbe que vous avez utilisé il y a quelques instants, Gérard Vincent. Vous avez dit à nos auditeurs, vous m'avez dit, je consens. Je consens à quoi ?
Je consens, c'est ce qui m'a été demandé alors que j'étais au plus mal et que rien n'amorçait une quelconque sortie de cet enfer psychique. C'est une voix intérieure qui me dit de prononcer ces deux mots, je consens. Je les prononce à voix haute et tout s'ouvre en quelques heures d'une manière absolument extraordinaire, pour moi miraculeuse, j'ose le mot. Mais pourquoi ces mots? Alors si j'y ai quand même réfléchi, c'est je consens à cette descente aux enfers, quoi. Je consens à cette épreuve, il y a un mot qu'on emploie surtout pour le Christ et Dieu, c'est le mot kénose, c'est-à-dire descendre dans les... C'est vrai que au moment où je vous descendais très loin, le Christ était présent et ça se passait pendant la Semaine Sainte et à un moment je parle de l'intervalle terrible, et cet intervalle terrible, c'est celui qui sépare la mort et puis le terrible, le Eli lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, et puis le matin de la résurrection, hein, le surgissement, la grande lumière.
Dialogue, Montserrat Vidal.
Gérard Vincent, nous parlions à l'instant, juste avant ce merveilleux Laudate Pueri Dominum de Vivaldi. Nous parlions donc de ce compagnonnage presque que vous avez eu avec Christian Bobin et d'autres aussi, oui, Georges Aldas, Vigée. Je voudrais, avant de reprendre notre entretien, faire entendre quelques lignes à nos auditeurs de ce très beau récit. Nous sommes le 19 mars 1978 et vous écrivez. Comment dire une certitude brûlante? Comment dire la présence ignée, la lumière, le centre de feu le noyau pulsant originel. Et comment le dire sans dire aussi la terrible présence en soi de cette part mauvaise, grinçante, mécanique, obsessionnelle, déstructurante, cette part enfin qui est la lumière, qui n'a de cesse que celle-ci soit entièrement recouverte de gravats et de poussière. Haine de la lumière et haine surtout de ce saint terreau de la lumière, la contemplation. Je voulais faire entendre à nos auditeurs la musique de votre texte, qui est un récit d'une expérience, voire peut-être d'une expérimentation intime que vous livrez à vos lecteurs, à vos auditeurs, et c'est sur la forme que vous donnez à l'incandescence que je voudrais aussi vous interroger. Pour ma part, je l'ai lu, oui, comme une chronique qui suit, étape après étape, la descente aux enfers, et puis un retour à la vie. C'est aussi un journal. C'est également la relation d'un état de tension spirituelle, voire de tension mystique. Vous me direz hein, si je me trompe. Et c'est également un texte poétique, ce qui fait de ce récit un collage, je donne à mon mot un sens presque surréaliste, de formes très différentes les unes les autres et qui rendent compte justement de cette expérience au cours de ces différents mois, voire années que vous avez traversées.
Oui, c'est bien décrit. En fait, il y a ces dimensions, donc le mystique, oui, contemplation, oui, et poésie, oui, parce que avant même que tout ça survienne, oui, j'étais déjà engagé sur un chemin passionné de poésie, découverte des grands poètes. Enfin, pour la France, ça a été pour les poètes français, c'était essentiellement Nerval et Rimbaud. Mais pour les grands étrangers, c'est Hölderlin, Hopkins, et puis un peu plus tard, pas à ce moment-là, un peu plus tard, c'était les Russes. Hein,
le roman, à travers le roman.
Le roman russe, mais après, ça a été Mandelstam,
la poésie, oui.
Akhmatova, Svetayeva, etc. Et puis, donc, il y a ce récit, il y a cette chronologie qui suit ces jours qui brûlent, hein, sous forme de carnet, journal, dans lequel je me penche sur des choses de la vie courante, mais aussi je reviens quand même assez fréquemment sur ce qui s'est passé en m'interrogeant, en essayant de comprendre, et c'est difficile de comprendre quelque chose, mais pour moi une chose immensément positive, puisque je vais me retrouver sur un chemin que je trouve vraiment magnifique, quoi. Un chemin de recherche, un chemin de méditation, parfois, même si c'est de contemplation, mais ça, j'en ai plutôt parlé dans le Mort d'un chartreux, oui, hein, puisque c'est le sommet de la règle cartusienne. Et bon, voilà, il y a un terme qui vient de Jung que j'aime bien, qui est le terme individuation, c'est-à-dire que après ce bouleversement total de l'être, je me suis retrouvé sur un chemin nouveau, et c'est un chemin d'individuation, c'est-à-dire un chemin d'approfondissement illimité, un chemin qui normalement, s'il n'y a pas de problème de santé majeur, se termine avec la mort.
Vous citiez tout à l'heure Rimbaud, qui semble être de vos poètes. Je livre à votre réflexion et à celle de nos auditeurs, avec votre éclairage, cette phrase que vous connaissez bien évidemment et qui me semble bien rendre compte de votre expérience à travers ces mois difficiles et douloureux. Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes, mais la vision de la justice est le plaisir de Dieu seul. Donc, dans l'incandescence, c'est un combat entre les ténèbres et la lumière. Et c'est aussi quelque chose qui relève vraiment de la bataille.
Oui, oui, vraiment de la bataille. Un combat dont jusqu'au bout, j'ai pas... avec qui un combat dont j'ai jusqu'au bout pas su quelle en serait l'issue. C'est vrai qu'il y avait quelque chose dans l'adversité de cette épreuve qui relevait un petit peu du démoniaque.
D'une possession, diriez-vous? Ou le terme
une possession. Par exemple, ma mère qui a été amenée à passer beaucoup de temps au début, surtout pour m'aider, me disait par exemple que parfois pendant une demi-heure, je parlais en latin. Et moi, j'ai fait du latin, mais pas au point de parler latin. Je n'ai jamais su parler latin. Et alors, je lui ai dit, c'est dommage que tu ne m'aies pas enregistré. On aurait pu comprendre ce qui se disait. Mais ça ressemble à une sorte de prise du corps par une entité, quoi, une entité extérieure. Oui, moi, dans cette expérience, il y a eu des voix, des hallucinations, des menaces, des injures terribles. Comme si cet état de grande exaltation à laquelle j'étais arrivé avant cette épreuve avait déplu à quelqu'un. Il s'en est pris à moi. Mais bon, c'est des conjectures.
C'est des conjectures, et puis que vous faites peut-être désormais au fil expériences. Et de cette métamorphose qu'a produit ce moment long dans votre existence. Puisque vous disiez tout à l'heure que même votre corps s'en était trouvé changé.
Oui, s'en est trouvé changé. C'est-à-dire que c'est la perception que j'avais d'un art, par exemple, qui n'avait plus rien à voir avec ce que je pouvais vivre et expérimenter avant. Et j'étais... beaucoup de choses devenaient des signes, me parlaient, et ensuite, tout était dans une autre lumière, et ça c'est certain, c'est une transformation radicale de l'intérieur. Mon corps est passé dans une sorte de machine qui l'a embrasé.
Vous utilisez le mot lessivé.
Oui, lessivé, oui, d'un régime de machine. Enfin, c'est pas très beau comme expérience et comme analogie, mais c'est ça. J'emploie aussi le terme ordalie, une ordalie qui a mal tourné, puisque une ordalie, normalement, c'est une épreuve
dont on sort vainqueur, comme
le phénix. Mais là, non. Ça a mal tourné, ça a très mal tourné dans un premier temps. Il y a eu un retournement magnifique et merveilleux à la fin, quand même.
Puisque vous êtes là, Gérard Vincent.
Oui, parce que je suis là et je suis
et
toujours...
que vous nous parlez avec sérénité
cette... J'ai eu comme tout le monde, des coups durs dans ma vie, mais j'ai jamais remis en cause cette aventure et ce chemin que je poursuis aujourd'hui. Et puis, j'ai la chance de le partager aussi, de pouvoir le partager grâce au livre.
Merci, Gérard Vincent.
Merci, Monserrat.
Nous allons poursuivre cet entretien à propos de l'incandescence dans une seconde émission.
D'accord.
Mais d'ores et déjà, j'invite nos auditeurs à vite se précipiter sur ce très beau récit, L'incandescence, publié aux éditions Les Instants.